Il est 7h.
Ça aurait été facile de ne pas venir, de claquer la porte et d'éviter de l'expliquer publiquement les choses. Il y a une discussion avec les autorités polonaises, un blocage. Je n'ai pas cédé sur le fond et je continuerai ce combat. Et je n'ai pas non plus rompu le dialogue.
Un ministre français en visite officielle interdit d'accès à certaines villes de Pologne. Clément Beaune voulait se rendre dans les zones anti-LGBT. Il a dû rester à Varsovie. 2000 appels en un mois au 3928, la nouvelle plateforme de lutte contre les discriminations. Nous ferons le bilan dans ce journal avec Gladys Laffitte. Deux adolescents sont actuellement hospitalisés après de nouveaux affrontements hier entre bandes rivales. Ça s'est passé à Champigny-sur-Marne. Et puis, à quand les tests anti-Covid à la maison en France? Sont-ils efficaces, moins douloureux? Nous poserons la question à notre journaliste santé, Anne Le Gall. Après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et on va s'intéresser au vrai coût de la crise pour les entreprises, car malgré les aides de l'État, il est colossal.
Avant le regard international de Vincent Hervouet, nous serons au Sénégal. À 7h20, l'édito sport, Virginie Fulpin. Et puis enfin, nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ouais, je suis très content, wesh, d'être avec vous ce matin. Wesh, je crois, wesh, que vous avez deviné quelle est l'expression du jour, wesh. Ça vient d'où, wesh?
Eh bien, on le saura dans une vingtaine de minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous, Carole Ferry. Bonjour Carole.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est un ministre français chargé des questions européennes et la Pologne lui a fermé les portes de certaines villes.
Clément Beaune était pourtant en visite officielle. Il avait fait son coming out au mois de décembre dernier et avait promis à l'époque de se rendre en Pologne pour soutenir la communauté LGBT.
Oui, car de plus en plus de villes refusent de reconnaître les droits des homosexuels. C'est dans ces villes-là que le secrétaire d'État aux affaires européennes voulait justement se rendre. Jean-Rémy Baudot, vous êtes à Varsovie pour Europe 1. Comment expliquez-vous cette restriction des déplacements pour Clément Beaune ?
Eh bien, en langage diplomatique, on parle d'une pression amicale. Officiellement, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour le déplacement de Clément Beaune. Mais une source à Varsovie me confirme que la sécurité physique du ministre, lui-même ouvertement gay, n'était pas assurée dans cette zone dite anti-LGBT. Un ministre européen empêché de se déplacer librement en Europe, c'est probablement une première, un réel échec. Mais Clément Beaune assume son choix d'avoir maintenu, malgré tout, son voyage.
Ça aurait été facile de ne pas venir, de claquer la porte et d'éviter de l'expliquer publiquement les choses. Il y a une discussion avec les autorités polonaises, un blocage. Je n'ai pas cédé sur le fond et je continuerai ce combat. Et je n'ai pas non plus rompu le dialogue.
Dialoguer et afficher publiquement sa réprobation. Hier, Clément Beaune a reçu plusieurs représentants d'associations LGBT. Il parlera ce matin avec son homologue. Une méthode plus lente, mais qui, selon lui, peut aboutir.
Pendant très longtemps, on n'a pas parlé de ces sujets avec les Polonais. J'en parle. Prendre la République en parle, et en même temps l'attitude qui consiste à se tourner le dos, qui a été aussi une pratique parfois française à l'égard de beaucoup de pays européens, en disant c'est trop compliqué, on a trop de désaccords, ça n'est pas non plus notre approche.
Clément Beaune qui maintient sa promesse, il affirme qu'il reviendra visiter une zone anti-LGBT. Reste à savoir quand les autorités polonaises le lui permettront.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Envoyé spécial à Varsovie, en Pologne. En pleine affaire Michel Zecler, vous vous souvenez de ce producteur de rap tabassé par des policiers à Paris. Emmanuel Macron avait annoncé le lancement d'une plateforme contre les discriminations.
Et elle est maintenant en place depuis un mois. Chacun peut venir exprimer les violences physiques ou verbales dont il est victime. Il suffit pour ça de composer le 3928. Il y a eu jusqu'à présent 2000 appels, 806 signalement sur Internet. Aucun retour toutefois pour le moment sur des faits de racisme de la part de la police. Alors qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Eh bien écoutez le reportage de Gladys Laffitte.
Dans ce centre d'appel, ils sont une dizaine à répondre à la centaine de coups de fil quotidiens. Comme Noara, tous ont une formation juridique.
On va vraiment prendre le temps de leur prêter en fait une oreille attentive. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est une solution.
Antidiscrimination, bonjour.
Bonjour. J'ai eu un problème avec une collègue de travail qui m'a traité de sale arabe.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
En fait, on a eu une petite altercation parce qu'elle me cherchait dans le service. En fait, je travaille dans une collectivité.
Le plus souvent, ce sont des discriminations à l'embauche ou au logement qui sont signalées en raison d'un handicap ou d'un état de santé. La plateforme fait ensuite le médiateur, explique son responsable, Fabien de Chavannes.
Notre intervention, c'est du règlement amiable. C'est d'essayer de trouver des solutions entre les personnes. Le défenseur des droits, c'est pas la police, c'est pas un juge non plus. On va pouvoir interroger un employeur, un bailleur ou toute personne qui est mise en cause, et elle est tenue de nous répondre.
Depuis un mois, près de 3000 signalements ont déjà été reçus dans toute la France, mais à ce jour, aucun appel ou message mettant en cause le comportement des forces de l'ordre.
Le reportage de Gladys Lafitte. De nouveaux affrontements hier soir entre bandes rivales en région parisienne. Ça s'est passé en plein centre-ville de Champigny-sur-Marne. Une quinzaine de jeunes venus de quartiers différents ont réglé leur compte.
Et le bilan est lourd. Un jeune de 14 ans est actuellement entre la vie et la mort. Un autre, adolescent de 15 ans, a été hospitalisé.
Un phénomène inquiétant face auquel le maire de la ville, Laurent Jeanne, se sent complètement démuni.
C'est inquiétant, oui, parce que vous voyez, ça fait 8 mois que je suis élu et j'ai déjà eu 3 incidents de cette nature et à chaque fois, on monte dans la violence. Je pense qu'on est vraiment dans un règlement de compte entre jeunes de différentes cités qui se défient, y compris parfois même pour un morceau de rap. Mais c'est un phénomène qu'on a depuis quelques années, qui s'était un petit peu atténué il y a 4-5 ans et puis qui est revenu un peu plus fortement depuis, grosso modo, un an et demi à 2 ans. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'identifier des signaux faibles ou forts sur les réseaux sociaux, sur les messageries privées, cryptées, qui sont plus compliquées à identifier pour la police. Donc on voit bien qu'on est un peu démunis au fond pour trouver les bonnes réponses.
Une rixe qui intervient 2 semaines après la mort de 2 adolescents de 14 ans en Essonne, là encore à cause de bagarres entre bandes rivales. Face à cette violence, les autorités vont même aujourd'hui jusqu'à survoler en avion ces banlieues sensibles pour tenter de prévenir le pire. Ce sera le dossier du jour dans le journal de 8h sur Europe 1.
7h06 sur Europe 1.
Certes, il y a moins de queue pour aller se faire tester contre le Covid-19, mais ça reste très désagréable au fond des narines. Alors bonne nouvelle, de nouveaux tests plus faciles et à faire à la maison pourraient arriver prochainement en France. Ce sont les autotests antigéniques. Les premiers ont fait leur apparition dans les supermarchés Lidl et Aldi le week-end dernier en Allemagne. 25€ la boîte de 5. Mais bien sûr, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que nous en aurons bientôt chez nous, en France ? Eh bien, nous allons voir tout ça tout de suite avec vous, Anne Le Gall. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est que la Haute Autorité de Santé doit se pencher sur la question en fin de semaine. Et au-delà du côté très pratique, quels sont les avantages de ces tests, Anne ?
Eh bien, comme ces tests donnent un résultat en 20 minutes et qu'ils sont moins désagréables, puisqu'il suffit de frotter l'intérieur de la narine avec un coton-tige, leur point fort, ce serait de pouvoir les utiliser de façon répétée en dépistage. Par exemple, pour des tests réguliers dans les écoles ou les entreprises. C'est déjà ce qui se fait en Autriche ou en Angleterre, où les tests peuvent aussi être réalisés à domicile quand on ne se sent pas en forme. Car même s'il y a encore assez peu de données, les premiers résultats d'efficacité sont plutôt encourageants, explique le professeur Samira Fafi-Kremer. Elle dirige l'Institut de virologie de Strasbourg.
On voit qu'il y a effectivement 80% de sensibilité par rapport à un test antigénique qui est réalisé par un professionnel de santé. Donc ça, c'est bien, mais il faut vraiment encadrer leur utilisation.
Alors effectivement, il faudra s'assurer de la fiabilité des dispositifs, du bon geste pour le prélèvement et surtout s'assurer que les patients positifs respectent les règles d'isolement. Ce sont autant de points qui seront abordés par le groupe des 15 experts réunis par la Haute Autorité de santé en fin de semaine.
Merci Anne Le Gall.
Et ceux qui ont connu le test PCR classique avec les couvillons ont monté le son, là, je suis sûr, en attendant ces tests qu'on pourra réaliser
c'est
à
sûr.
La maison. Parlons à présent de ce projet de loi qui aurait été des plus difficiles à élaborer, celui sur la loi climat et résilience, arrivé hier à l'Assemblée nationale. C'est là qu'est concentré l'essentiel des mesures issues de la Convention citoyenne sur le climat. 5000 amendements ont été déposés, il faudra 2 semaines pour les examiner en commission spéciale.
Et en première ligne, Barbara Pompili. La mission s'annonce particulièrement éprouvante pour la ministre de la Transition écologique, qui divise jusque dans la majorité, Claudia Bertram.
Barbara Pompili n'a pas que des alliés. Le texte de loi est vivement critiqué par ses anciens camarades d'Europe Écologie Les Verts qu'elle a quittés pour rejoindre En Marche en 2017 et elle clive au sein de sa nouvelle famille politique. Plusieurs prises de position de la numéro 3 du gouvernement ont attisé les tensions au sein de la majorité. Dernier exemple en date, la polémique sur les menus sans viande, à tel point que le député agriculteur Jean-Baptiste Moreau a fustigé son manque de loyauté sur Twitter. Il y a un problème de fond quand on nomme un écologiste à l'écologie, estime un pilier de la majorité qui explique « il n'en fera jamais assez pour sa chapelle d'origine et toujours trop pour les autres ». Certains voient aussi d'un mauvais œil le mouvement En Commun que la ministre a fondé avec d'autres élus de l'aile gauche de la majorité. Un de ses proches le souligne. Elle dérange un peu parce qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Barbara Pompili divise, mais pour être réélue, Emmanuel Macron a besoin d'une caution écologiste. Et pour l'instant, elle est la seule à l'incarner.
Et l'examen du projet de loi ne devrait pas commencer avant la fin du mois dans l'hémicycle. Enfin Mathieu, est-ce que vous imaginez un tweet à 2,5 millions de dollars ?
C'est quoi ? C'est le prix d'une œuvre d'art là ?
Eh bien... C'est tout à fait juste. Figurez-vous que certaines vidéos ou tweets sont désormais mises en vente aux enchères sur Internet, considérées en effet comme des œuvres d'art exclusives. Alors ce tweet à 2,5 millions de dollars, eh bien c'est le tout premier publié le 21 mars 2006 par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Et les ventes d'objets numériques de ce type, eh bien c'est en pleine expansion, Clément Le Saffre.
Oui, un marché tiré principalement par les œuvres d'art numériques, des photomontages, des graphismes ou des vidéos réalisées par des artistes 2.0. L'an dernier encore, c'était un marché de niche, mais il connaît une ascension fulgurante. Les ventes d'œuvres d'art numériques ont atteint 90 millions de dollars en février. C'est 9 fois plus qu'en janvier, avec un record établi il y a quelques jours, plus de 6 millions de dollars pour une vidéo de l'artiste Beeple. Une vidéo de 10 secondes en 3D dans laquelle on voit des gens marcher devant le corps inerte d'un Donald Trump géant. Cette vidéo est visible partout sur Internet, mais l'original est certifié grâce à la blockchain, la technologie qui supporte les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Elle fonctionne comme un certificat de traçabilité qui garantit que l'œuvre achetée est bien l'original et non une des nombreuses copies diffusées sur le web. Par extension, cette technologie s'applique à des tweets, des personnages de jeux vidéo ou encore des versions spéciales d'albums de musique, des objets qui intéressent les spéculateurs mais aussi les collectionneurs dans le cas où ces objets qui marquent l'histoire d'Internet trouveraient un jour leur place dans un musée virtuel.
Décidément, oui, le monde change. Oui. Merci Clément Le Saffre.
Des vidéos Twitter de 10 secondes, on va faire quelques économies.
Est-ce qu'on aurait imaginé
ça ? Merci beaucoup. C'était le journal de 7h avec Carole Ferry sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.